VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 13 juillet 2017. Attaque meurtrière à Ménaka au Mali. Les corps de 19 soldats disparus ont été retrouvés ce jeudi. Cameroun, 15 civils tués et 45 blessés dans un double attentat la nuit dernière dans l'extrême nord. Kinshasa réagit à l'annonce de l'ONU sur la découverte de nouvelles possibles fosses communes dans le Kasaï.
Laissons la justice travailler. Dès lors que nous avons accepté de nous faire assister par les meilleurs experts, par des légistes qui peuvent venir de partout au monde, mais qu'ils viennent, nous les attendons.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro de Top Congo FM. Le président américain Donald Trump est à Paris, où il a tenu une conférence de presse avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Et les sports et l'économie, ce sera juste après le journal. Dans le nord-est du Mali, les corps de 19 soldats ont été retrouvés dans la région de Ménaka, pas loin du Niger. Ces militaires étaient portés disparus après une embuscade attribuée aux djihadistes. Le point à Ménaka avec notre correspondant Kassim Traoré.
Nous sommes à Ménaka. Ces éléments étaient portés disparus. Ce matin, à Ménaka, l'information a été donnée par la force Barkhane. Les corps de 19 militaires maliens ont été retrouvés, non le même du lieu de l'embuscade. Hier aussi, c'était la panique ici à Ménaka, car il y a des assaillants qui ont enlevé 12 4x4 d'une ONG humanitaire qui devrait venir servir dans le domaine de la santé, de l'éducation et de renforcement de la promotion de la femme. Donc au Ménaka, aujourd'hui, c'est la suite, c'est la peur à cause de ces attaques répétées au niveau Imbarkawan de André Boukan, qui est à la lisière entre le Mali et le Niger. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités maliennes sont en train de s'atteler pour mettre en place les forces armées maliennes qui sont au nombre d'une cinquantaine ici et la gendarmerie qui compte 15 éléments au niveau de la ville de Ménaka. Depuis Ménaka, Kassim Traoré pour la Voix de l'Amérique.
Un nouvel attentat meurtrier dans l'extrême nord du Cameroun a fait au moins 15 morts et 45 blessés à Ouaza. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Deux kamikazes ont actionné leur explosif dans un lieu très fréquenté où il y a des restaurants, cabines téléphoniques et buvettes. Ouaza, autrefois très fréquenté par des touristes pour son parc national, n'a-t-il plus à cause des attaques de Boko Haram. En 2014, 10 ouvriers chinois ont été enlevés avant d'être libérés après 5 mois de captivité.
Il est essentiel que l'enquête sur les violences au Kasaï identifie les responsables, a déclaré le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC, indiquant que 38 nouveaux sites possibles de fosses communes ont été découverts dans la région du Kasaï, qui a connu des violents combats entre les forces de sécurité locales et la milice Kamuina Nsapu depuis septembre. Notre radio partenaire Top Congo FM a recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende.
On ne peut pas nier qu'il y ait 38 fosses communes. Je suis persuadé qu'il y en a même plus. Mais qui suis-je pour pouvoir dire avec certitude qu'il y a 38 fosses communes? Puisque il y a eu d'abord une déclaration en Gaza, à Kananga, il y a 20 fosses communes. Lorsque les experts enquêteurs de la justice militaire et de la MONUSCO descendent en Gaza, on trouve 3 corps, on trouve des fosses avec des armes dedans, mais pas de corps. On trouve des fosses avec du sang, dont il n'est pas encore établi que c'est du sang humain ou si c'est du sang d'animal. Tout ça doit être recherché par la police scientifique. Mais où sont les 17 autres? Nous voulons des faits. S'il y a 38 fosses communes, il faut qu'on voit les 38 fosses communes. Et qui sont responsables? Il n'y a que la justice qui peut déterminer la culpabilité. Qui a mené une enquête? Qui est compétent pour mener ces enquêtes-là? Laissons la justice travailler. Dès lors que nous avons accepté de nous faire assister par les meilleurs experts, par des légistes qui peuvent venir de partout au monde, mais qu'ils viennent, nous les attendons.
C'était le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. L'accord de paix en Centrafrique signé à Rome va être complété la semaine prochaine par un comité de suivi impliquant l'Assemblée nationale, a indiqué ce jeudi la communauté de Saint-Égidio. L'accord a souligné un consensus sur un processus de désarmement, mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut y travailler, a souligné devant la presse Mauro Garofalo, responsable des relations internationales de la communauté catholique. Dans le sud du Nigeria, un soldat a été tué et plusieurs blessés ce jeudi par des assaillants non identifiés dans la région pétrolifère. L'attaque contre un poste militaire, la deuxième du genre en 10 jours, s'est produite ce matin au sud-ouest de Wari, capitale de l'état du Delta. Plusieurs arrestations au Sénégal après le scandale des fuites dans les épreuves du baccalauréat. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
19 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet depuis la semaine dernière. 15 autres sont sur le point d'être déférées, selon une source proche de l'enquête. Ces arrestations ont été effectuées dans 4 villes, dont Dakar, la capitale. Selon la presse locale, des proviseurs de lycées et des élèves figurent parmi ces suspects. Les responsables syndicaux ont demandé l'annulation pure et simple de l'ensemble des épreuves du baccalauréat qui concernaient cette année près de 150 000 candidats. Ces fuites ont provoqué un vif débat dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux, appelant à la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et du directeur de l'Office du Bac, responsable de l'organisation de cet examen national. Le secteur de l'éducation au Sénégal est confronté depuis plusieurs années à des crises marquées par des grèves récurrentes des enseignants, des étudiants et des élèves.
Un militant de l'opposition au Niger, Ibrahim Bana, a été condamné à 3 mois de prison, dont 2 avec sursis, pour des commentaires tendant à influencer une décision d'instruction sur les réseaux sociaux, indiquait son avocat. Monsieur Bana a été jugé avec Gamassié Mahamadou, un syndicaliste et membre du collectif de la société civile, avec qui il a été arrêté le 24 juin pour des publications sur Facebook en lien avec des questions de justice. Un journaliste et un syndicaliste gabonais, Juldas Biviga et Marcel Libama, poursuivis pour diffamation envers un magistrat, ont écopé de 45 jours de prison ferme et de 300 000 francs CFA selon leur avocat. Selon la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, interdite par le gouvernement depuis fin mars, ils auraient été passés à tabac en prison ce matin avant d'être conduits au tribunal. Le Soudan a affirmé poursuivre ses efforts pour parvenir à une levée totale des sanctions américaines, espérant que Washington revienne sur sa décision de prolonger sa période de réflexion. Le parti au pouvoir a par ailleurs dit qu'il tiendrait les États-Unis pour responsables si des troubles surgissent dans le pays suite à cette décision. Khartoum a suspendu hier ses discussions avec les États-Unis sur la levée totale de l'embargo après que Washington eut prolongé de 3 mois les dernières sanctions imposées depuis 20 ans au régime du président Omar el-Béchir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump est à Paris où il a tenu une conférence de presse avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Salwa Jafari nous en dit plus.
Air Force One a atterri ce matin à l'aéroport parisien d'Orly. Un programme chargé attend le président américain. Cérémonie militaire, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée, dîner dans un grand restaurant de la Tour Eiffel et demain vendredi le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Cet après-midi, Emmanuel Macron a accueilli officiellement le président américain lors d'une cérémonie à l'Hôtel National des Invalides. Un peu plus tôt, la première dame Melania Trump s'est rendue à l'hôpital Necker où elle a rencontré des enfants malades. Trump, 71 ans, Macron, 39 ans, deux hommes que tout semble opposé vont tenter de trouver un terrain d'entente. La présidence française insiste sur les enjeux diplomatiques. Il s'agit, selon Macron, de ne pas rompre avec les États-Unis et de réaffirmer les liens historiques qui unissent les deux vieux alliés. Il sera aussi question de lutte antiterroriste, de collaboration sécuritaire. Les sujets de divergence, comme le climat, devraient également s'inviter durant leur tête-à-tête.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson achève sa mission de médiation dans le Golfe sur la querelle entre le Qatar et ses voisins. Dans un communiqué, il a par ailleurs rendu hommage au dissident chinois Liu Xiaobo, décédé d'un cancer, et exhorté Pékin à libérer son épouse Liu Xia de sa résidence surveillée et de la laisser quitter la Chine selon son souhait. L'OTAN et la Russie ont convenu d'éviter tout risque de confrontation à l'approche d'importantes manœuvres russes. Lors d'un conseil OTAN-Russie à Bruxelles, les Russes ont répondu aux demandes de l'OTAN sur l'exercice militaire Zapad 2017, prévu en septembre entre la Pologne et la Lituanie. Et la majorité républicaine au Sénat américain a relancé ce jeudi sa tentative d'abroger partiellement la loi sur la couverture maladie de l'ex-président Barack Obama. Une première version du texte a été adoptée en mai à la Chambre des représentants, mais l'affaire est moins évidente au Sénat. Les républicains ne sont en effet que 52 sur 100 et une dizaine ont menacé de faire défection. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
La Chine a fait don d'un patrouilleur d'une valeur de 2 milliards de francs CFA à la marine ivoirienne. Ce navire dernière génération de 27 mètres de longueur, équipé d'une grue, d'un chariot élévateur et d'autres matériels militaires servira à lutter contre la piraterie. Selon le général Sékou Touré, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ce patrouilleur accroîtra les capacités de la flotte ivoirienne et lui permettra de sécuriser le golfe de Guinée. Au Nigeria, la ministre des Finances Kemi Adeosun s'oppose une fois de plus aux emprunts sur le marché international pour financer le budget. Elle a déclaré lors d'un forum à Abuja que le Nigeria ne peut plus se permettre d'emprunter à l'extérieur et qu'il faut trouver d'autres moyens pour mobiliser des fonds. Actuellement, le Nigeria enregistre un déficit de plus de 7 milliards de dollars et la dette globale nigériane s'élève désormais à 55 milliards de dollars. La Banque centrale du Zimbabwe envisage d'émettre plus de billets d'obligation. Le pays fait face à une pénurie accrue du dollar américain et au risque d'un retour à l'hyperinflation. En 2009, le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie pour le dollar américain afin de mettre fin à l'hyperinflation, à l'époque où le pain s'achetait avec des billets de 100 millions de dollars zimbabwéens.
Présent les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par du foot. Hein. La FIFA a levé la suspension du Soudan.
Tout à fait Nathalie, et cela 7 jours après avoir annoncé la suspension du Soudan en raison d'ingérence politique. La FIFA a indiqué que la situation est revenue à la normale à la Fédération soudanaise de football. Appuyé par les pouvoirs publics, le bureau sortant avait refusé de partir à l'issue des élections qu'il a pourtant bien perdues, instaurant donc un blocage à la SFA. La suspension a conduit à la disqualification des clubs soudanais, Dilal Obied et Al Merreikh, qui étaient en passe de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions et de la Coupe des confédérations.
L'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte a été sanctionné.
Effectivement, l'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte écope de 10 000 dollars d'amende et d'un match de suspension avec sursis pour avoir refusé de s'exprimer au micro de la chaîne Bein Sport lors du match contre le Wydad Athletic Club. Il a récidivé avec ses joueurs après la rencontre face à Coton Sport du Cameroun. Ces faits se rapportent à la détérioration des relations politiques entre l'Égypte et le Qatar à qui appartient la chaîne Bein Sport.
Et le foot ivoirien est endeuillé de nouveau.
Oui, l'attaquant ivoirien Eugène Kofi Kwame, 29 ans en vacances à Abidjan, s'est écroulé en plein match alors qu'il s'entraînait avec des amis sur un terrain. Kofi Kwame évolue en Turquie depuis 2015. Ce décès intervient quelques semaines après celui de Cheikh Tioté, victime également d'un arrêt cardiaque le 5 juin dernier en Chine au cours d'une séance d'entraînement avec son club.
Un peu de cyclisme avec le Tour de France dans lequel est relancée la 12e étape.
L'Italien Fabio Aru a dépossédé le Britannique Chris Froome du maillot jaune à l'issue de cette première des deux journées dans les montagnes. Au classement général, Aru devance désormais Froome de 6 secondes et Bardet, vainqueur de l'étape du jour de 25 secondes. Le Colombien Rigoberto Urán, quatrième, a vu son retard sur le maillot jaune passer de 35 à 55 secondes suite à une pénalité de 20 secondes pour ravitaillement interdit.
Un mot rapidement en tennis avec Venus Williams.
Oui, l'américaine 5 fois lauréate de Wimbledon est qualifiée pour une 9e finale à Londres. Elle a écarté en demi-finale la Britannique Joanna Conta en 2-7, 6-4, 6-2.
Merci beaucoup pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Dans la ferveur de la campagne électorale sénégalaise, l'absent le plus présent est Khalifa Sall, le maire de Dakar. La tête de liste nationale de la coalition d'opposition, Manco Taxaou Sénégal, est incarcéré à la prison de Rebeus depuis le 7 mars pour détournement présumé de deniers publics. Une accusation qui porte sur près de 2 milliards de francs CFA. Malgré son absence, ses alliés, collaborateurs, militants et sympathisants sont de plein pied dans la campagne. Un reportage de Seydina Abagay.
Au quartier général de Khalifa Ababakar Sall, l'état-major s'organise pour un bon déroulement des activités. Ici, l'emprisonnement du leader n'affecte pas tellement le bon déroulement du travail, comme l'indique Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar.
Nous sommes en train de battre campagne, sans Khalifa physiquement, mais avec lui de cœur et d'esprit. Parce que vous savez, une campagne électorale, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. À ce niveau, il y a deux types de programmes. Il y a un programme national que nous avons défini, qui consiste à visiter tous les départements par tous les leaders. Il y a également un programme au niveau départemental. Chaque département s'organise et crée un programme qu'il applique au niveau communal et départemental.
Loin de ces cadres théoriques, la campagne sur le terrain est tout autre. Des centaines de jeunes de la coalition parcourent chaque jour les artères de la capitale sénégalaise pour dénoncer l'emprisonnement de leur leader. Bassirou Sam, responsable national des jeunes socialistes, porte leur voix.
Cette mobilisation est la conséquence d'une initiative lancée par des jeunes politiques et apolitiques qui ont tous le même objectif, se battre pour la libération de Khalifa Ababakar Sall, pour sensibiliser les gens, pour les mobiliser afin que notre leader puisse être libéré le plus rapidement possible.
Dans la banlieue Dakar, minée par les inondations, l'ancien ministre Malick Gakou pionne le régime en place. Pour lui, le gouvernement a laissé ses populations dans la détresse.
Cette situation est inacceptable et à la fois inadmissible, mais c'est la meilleure preuve encore une fois que le gouvernement du président Macky Sall ne s'occupe pas du bien-être des populations de la banlieue. Et c'est aussi une manière de dire au président Macky Sall que les populations lui ont tourné le dos et que le 30 juillet prochain, les populations vont démontrer avec force et pertinence qu'elles ont choisi la coalition Manco Taxaw Sénégal en qui elles ont espoir pour résoudre leurs problèmes de bien-être social, mais également résoudre la question lancinante des inondations qui gargarisent et qui gangrènent leur vie tous les jours.
Les membres de la coalition Manco Taxaw Sénégal rêvent de voir leur leader participer au dernier jour de la campagne. En effet, la Cour suprême doit se prononcer ce 20 juillet sur le pourvoi en cassation du maire de Dakar. En cas de verdict favorable, Khalifa Sall pourra battre campagne durant la dernière semaine. Au cas échéant, il vivra les élections législatives du 30 juillet depuis sa cellule de la prison de Rebeus. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Dans une lettre ouverte adressée à Joseph Kabila, la société civile du Sud Kivu demande au président congolais de libérer le processus électoral en vue de la tenue des élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 décembre 2017, comme convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Vendredi dernier, le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a déclaré que l'organisation des élections en RDC ne sera pas possible avant la fin de l'année. Voici un reportage d'Ernest Mouero à Bukavu.
Selon Patien Bachombe, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, différentes organisations qui composent cette structure citoyenne ont constaté avec regret que non seulement d'un côté le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore mis en place et de l'autre la CENI n'a toujours pas publié un calendrier électoral, mais chose étonnante, l'idée d'un référendum est de plus en plus évoquée sous forme de provocation vis-à-vis du peuple par certains acteurs politiques. Patien Bachombe.
Nous avons constaté que la situation politique est tellement fragile qu'il faudrait rapidement que les élections se tiennent selon le vœu des Congolais et non pas à traîner les pas, penser à des référendums. Et c'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie tous ces politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, qui veulent nous amener à la période d'avoir la démocratie que nous ne pouvons pas tolérer. Et donc nous demandons au chef de l'État vraiment de libérer les processus électoraux en vue de l'organisation des élections d'ici la fin de cette année 2017.
Amos Bissimwa, membre du mouvement citoyen Le Réveil des Indignés, réclame l'alternance à tous les échelons du pouvoir à mandat législatif.
Le Réveil des Indignés lance un appel pathétique à la population. Nous réclamons l'alternance. On a eu à nous rouler dans la boue au mois de décembre l'année passée. Vouloir encore reporter les élections au-delà du 31 décembre de cette année, c'est engager une guerre avec le peuple congolais.
De passage à Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a déclaré le 12 juillet dans une conférence de presse que les Nations Unies aussi tiennent au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre pour les élections en RDC en 2017. Maman Sidikou.
Je voudrais encourager les leaders politiques du Sud Kivu, à l'instar du reste du pays, à s'engager activement dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 afin que le pays puisse aller vers des élections transparentes, conformément à l'accord du 31 décembre, donc d'ici la fin de l'année. Nous pensons que le respect de cette composante de l'accord du 31 décembre aidera à apaiser les tensions, à ramener les esprits ensemble.
Signalons que c'est depuis le 30 juin que les bureaux des coordinations de la société civile du Sud Kivu ont entamé les consultations de ces organisations membres pour une position commune au regard de ce qu'ils qualifient des marasmes sociaux, économiques et sécuritaires en province du Sud Kivu. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
L'émissaire des Nations Unies au Burundi, l'ex-président burkinabé Michel Kafando, poursuit ses consultations en vue d'apaiser la crise dans ce pays. Il a rencontré différents acteurs politiques et des représentants de la société civile. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Depuis ce lundi, l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi, l'ancien président burkinabé Michel Kafando, rencontre les différents acteurs politiques et de la société civile, mais en secret. Il est actuellement difficile de connaître ceux qu'il a déjà rencontrés. Toujours est-il que la question du dialogue inter-burundais, qui est aujourd'hui au point mort, reste à l'agenda. Mais pour Gilbert Beko Njangwa, porte-parole de 13 organisations de la société civile proches du pouvoir avec lesquelles Michel Kafando s'est entretenu mardi, il est grand temps de rapatrier le dialogue extérieur, car la paix, selon Djangwa, est totale.
Lui avons carrément dit que la révision de la constitution de la République des pays membres de l'ONU, que ça en rêve de la souveraineté nationale. Nous avons aussi parlé sur le dialogue inter-burundais, que ces conclusions manifestent aussi la volonté populaire, que le dialogue externe soit rapatrié à Bujumbura et que le dialogue continue à l'intérieur du pays. S'il y a des personnes parmi les acteurs politiques ou les politiciens qui vivent à l'étranger qui veulent rentrer, puissent rentrer rapidement, sans peur, parce qu'ils ne vont pas rester à l'extérieur pour l'éternité. Qu'au Burundi, il y a la paix, il y a la sécurité et que les Burundais vivent en harmonie et en symbiose.
L'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi continue ses rencontres avec les Burundais de l'intérieur. Léonce Ngendakumana affirme que Michel Kafando est assez outillé pour mener à bien ses consultations, mais pour lui, tout peut être changé, sauf la constitution et l'accord de paix de réconciliation d'Arusha qui consacre deux mandats pour tout dirigeant burundais.
Mokapa ou le MI ou les autres ont parlé de la constitution alors que c'est une question de souveraineté. Nous avons dit oui pour l'indépendance et la souveraineté, nous en sommes conscients aussi, mais la souveraineté ne signifie pas avoir les outils d'infantiliser ton peuple. Les outils d'opprimer les autres. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, on utilise l'armée, on utilise la police, on utilise l'appareil administratif, on utilise l'appareil judiciaire pour réprimer ceux qui sont contre la violation ou le rejet de l'accord d'âge de la Constitution. On a démontré qu'on ne peut pas brandir cette carte. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas.
La crise politique qui a débuté en avril 2015 a entraîné des violences. Les Nations Unies et les organisations internationales estiment qu'entre 500 et 2000 personnes ont été tuées, tandis que plus de 400 000 Burundais sont réfugiés et plus de 200 000 sont des déplacés internes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En 2016, au moins 200 personnes se sont fait assassiner alors qu'elles protégeaient leurs terres, leurs forêts ou leurs rivières. Selon Global Witness, l'Amérique latine reste la région la plus dangereuse en la matière, mais l'Afrique n'est pas épargnée. De nombreux gardes de parc ont été assassinés sur le continent, dont notamment 9 en RDC. Morgan Guériec a joint Nikèze Moulumbi de l'organisation Croissance saine et environnement au Gabon.
La RDC, d'abord, elle est victime de ses ressources naturelles. La guerre en RDC est d'abord en partie de sa capacité à avoir toutes ses ressources naturelles. Et donc, chaque puissance occidentale ou même au niveau national se bat pour avoir sa part du marché. Et à partir de cet instant, les gardes sont à la fois menacés, mais par les braconniers aussi.
Alors, bien souvent, mis en cause la brutalité des forces de l'ordre.
L'Afrique, et particulièrement l'Afrique centrale, pêche encore parce qu'il y a la démesure, les interventions militaires ou même policières sur les altermondialistes ou les défenseurs de l'environnement ou les syndicalistes sont surproportionnées. Toute dénonciation peut toujours apporter des risques.
Parmi les autres prédateurs, on a les sociétés minières, forestières, agricoles.
Oui, bien sûr que oui. Beaucoup d'entreprises font attention pour ne pas gêner leur marque. La corruption éveille toutes ces menaces. Et c'est pour ça que les processus tels que les initiatives des industries extractives permettent aujourd'hui aux entreprises de publier ce qu'elles dépensent ou ce qu'elles peuvent recevoir de la part de l'État. Et donc, à la fois, il faut lier la question de la corruption autour des entreprises multinationales et qui vont donc affaiblir par leur position financière et par leur rente, qui vont donc affaiblir nos administrations.
Un des problèmes soulevés, c'est la criminalisation des militants.
Deux fois, les entreprises vont aussi corrompre la justice. Alors, vous savez, un industriel sait ce qu'il perd quand une campagne est lancée contre elle. Donc, l'impunité devait être une préoccupation des autorités en Afrique centrale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
C'était Nikèze Moulumbi de l'organisation Croissance saine et environnement au Gabon.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, Joubert Altaïeb. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact, bien sûr, sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous. À l'écoute de VOA Afrique.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.